en lui a commencé déjà
une certaine
pulsion de l'âme
et que le royaume a quelque peu planté ses fondations,
automatiquement il aura la vision intérieure.
Et cette vision
n'aura rien à voir avec quelque activité que ce soit au niveau
des yeux physiques.
Il pourrait même ne rien voir
avec ses yeux physiques,
mais être pleinement inondé d'une vision intérieure,
que ce soit la vision du bien commun,
que ce soit la vision du plan,
que ce soit la vision du perfectionnement humain,
la vision du divin. Tout cela est une activité de l'âme.
Maintenant que j'ai expliqué le pourquoi du troisième œil et de l'existence des yeux, revenons quelque peu,
pour ajouter quelques détails,
à la question de la nourriture.
Pourquoi est-ce que l'homme mange?
Pourquoi est-ce qu'il a besoin
d'absorber de façon très physique
les énergies de la terre?
Pour répondre à cette question, il faut comprendre pourquoi l'homme s'incarne.
Car s'il n'avait pas besoin de s'incarner, une fois incarné,
il n'aurait pas été aménagé pour pouvoir manger de la nourriture physique.
Pourquoi est-ce que l'homme s'incarne?
Comme je l'ai déjà dit si souvent,
mais je vais le répéter pour vous,
l'homme s'incarne pour aller chercher dans la contraction des particules d'esprit qui composent ainsi la matière.
Et quand je dis cela, je dis donc que la matière
est une zone où l'esprit divin est à l'état le plus compact.
Quand je dis que l'esprit divin est à l'état le plus compact,
je dis donc que c'est dans la matière que l'on rencontre le plus de particules de conscience au centimètre carré.
C'est donc l'endroit
où l'on va par excellence découvrir le plus d'énergie.
Mais quelle énergie?
Pas n'importe quelle énergie.
Une énergie qui a depuis toujours été le grand problème de l'homme.
Car c'est l'énergie même de la puissance de Dieu.
Au ciel, on trouve l'esprit de Dieu.
Mais dans la terre, on trouve la puissance de Dieu.
Beaucoup d'hommes regardent le ciel en disant « Dieu, envoie-moi ta puissance ».
C'est un disciple qui ne connaît pas la carte du ciel.
Quand tu regardes le ciel, demande la sagesse,
demande l'humilité, demande la connaissance,
demande d'être guidé.
Mais quand tu veux la puissance, la force,
alors regarde dans le sens inverse,
regarde en bas,
au Dieu qui est en bas.
Et quand je dis regarde le Dieu qui est en bas, je ne fais pas du tout référence au diable,
parce que l'on dit souvent et facilement que le diable,
c'est celui-là même qui détient les forces de la matière.
Et arrivé à ce point du discours, je suis bien obligée de parler du diable.
Qui est le diable?
Qu'est-ce que le diable?
Il ne faut pas confondre le diable
et des hiérarchies astrales sataniques.
C'est complètement différent.
On mélange trop souvent les deux.
Si bien que l'homme en arrive à haïr sa propre matière parce qu'il se dit c'est l'endroit du démon.
Et comme cela, dans la religion, on a créé des flagellations et toutes sortes de châtiments pour chasser le démon de la chair.
Comme si la chair y était pour quelque chose.
Comme si c'était le diable
qui avait créé votre corps.
Si vous pensez cela, réfléchissez un seul instant à ce genre de pensée.
Quelle logique peut-on en tirer si l'on pense de cette façon?
Si l'on pense que c'est le diable qui détient le pouvoir sur le corps, et que c'est le diable qui a créé la chair. Moi, je vous demande sincèrement, qu'est-ce que vous, vous allez penser d'un Dieu qui vous a envoyé dans ce corps? Qu'est-ce que vous allez penser de ce Dieu-là qui vous a envoyé dans l'endroit même du diable? Un Dieu dont les initiés vous disent qu'il est tout amour. Un Dieu dont Bouddha dit qu'il est toute lumière. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'illogique là-dedans? Si ce Dieu qui est au ciel et qui est votre Père est un Dieu d'amour, un Dieu qui veut pour vous l'éternité, la perfection, il ne peut pas vous avoir envoyé dans un corps qui serait détenu par le diable ou qui aurait été créé par le diable et qui serait le repère des démons. Si ce Dieu-là existait, je vous le dis, j'essaierai de le combattre et de l'anéantir. Et je ne proposerai pas, une fois que je l'aurai anéanti, d'être votre Dieu. Je vous laisserai libre parce que vous l'aurez bien mérité. Mais heureusement, les choses au ciel et sur la terre ne se passent pas comme l'homme le croit avec son esprit archaïque. Car ce qui le rend archaïque, c'est uniquement un manque de logique dans la pensée. Soyez logique. Et vous verrez que vous allez vous défaire de nombreux archaïsmes et de nombreux vilains dogmes. Si donc Dieu est un Dieu d'amour et qu'il vous envoie dans la matière, dans un acte du même amour, c'est que la matière n'est pas l'endroit des démons. Et que la chair n'est pas non plus l'endroit des démons. Donc, qu'est-ce que le diable? Car il est vrai que lorsque l'on étudie n'importe quel livre de vraie sagesse profonde et occulte, tout ce qui va systématiquement symboliser la matière, ce sera le carré et le diable. Que l'on utilise la démonstration des tarots, ou simplement que l'on s'en arrête au symbole maçonnique ou autre chose, on s'aperçoit que c'est le diable qui est la figure de la matière. Si l'on vient observer le diable, ce symbole, avec tout l'archaïsme qu'il y a dans la pensée et toute la superstition dont je parle si souvent, automatiquement, le diable va être cet être diabolique que tout le monde imagine, parce que c'est votre superstition qui parle. Il y a des peurs en moi. Je suis dans la barque sur l'océan qui connaît la tempête. Et celui qui agite l'océan, c'est forcément le diable, et il est dessous avec sa fourche en train de m'attendre. La peur est toujours synonyme de superstition et elle peut à chaque instant engendrer la superstition. La superstition, ce n'est que de la peur. Donc, encore une fois, je reviens sur la nécessité de se débarrasser de toute peur. Et dans le cas précis dont je parle, de se débarrasser de la peur pour se débarrasser aussi de toute superstition, même s'il apparaît que des superstitions soient très civilisées. Car il y a un certain nombre de superstitions dont l'homme moderne ne se doute même pas, parce que tout simplement il se dit civilisé et qu'il ne peut pas imaginer un seul instant que la peur de ceci ou imaginer cela, c'est faire preuve de superstition. Il dit la superstition, c'est bon pour les nègres d'Afrique qui en sont encore au tam-tam et au gris-gris. Mais moi, je suis ingénieur ou instituteur ou professeur ou chercheur ou philosophe. Je ne connais aucune superstition. Erreur. C'est chez le penseur, le philosophe, est le chercheur que l'on va trouver le plus de superstitions. Pourquoi ? Non pas parce que tout en apparaissant les plus grands, ils sont en fait les plus petits, mais parce que tout simplement, la plupart des individus qui font partie des courants de philosophie, de religion et de la science sont des gens qui pensent avec des dogmes, qui mettent des arrêts à leur pensée et à son développement. Ils font des statuts. Automatiquement, dès que l'on crée un statut, on crée une superstition. Par exemple, je suis un scientifique et je découvre, par certains de mes travaux, que le bleu émet une certaine note et que cette note est profitable, par exemple, à la fertilisation des sols, admettons. Vous allez me dire, mais c'est quelque chose qui n'a à voir qu'avec l'agriculture, je ne vois pas ce que la superstition aurait à voir là-dedans. Et pourtant, si. Cet homme qui a découvert cette chose va dire, le bleu émet tel son et tel son crée la fertilité. C'est une vérité. C'est la vérité. Et on ne peut pas le contredire. La vérité s'arrête là et s'exprime par là. Ce qui fait que toute personne qui essaierait de savoir ce qu'il y a après le bleu, quel son il y a après le son du bleu, et si par hasard cette couleur qu'il y a après le bleu et ce son qu'il y a après le son du bleu ne serait pas là pour, en plus de la fertilité qu'apporte le bleu, apporter l'abondance du fruit. Tous ces gens-là qui vont donc essayer d'aller plus loin seront empêchés. Et on va leur dire, si tu penses autre chose, tu es dans l'erreur, tu es dans les monstres, tu es dans ceux qui veulent perdre l'humanité, tu es dans ceux qui connaissent le délire. Et ça, c'est créer une superstition. Que ce soit dans le domaine scientifique ou dans le domaine religieux, c'est la même chose. Quand un médecin vient vous dire que l'acupuncture est absolument sans effet, c'est un superstitieux. Un superstitieux qui croit à quoi ? Qui croit que les pilules vont régler toute chose. C'est sa forme de superstition. Et c'est une superstition qui n'apparaît pas, parce que c'est un dialogue que l'on dit scientifique, moderne et civilisé. Dégagez-vous de toute superstition. Si l'on ne peut pas penser sans superstition, l'on ne peut pas espérer devenir un homme libre et approcher la face de Dieu. Donc, revenons à la nécessité de l'homme de s'incarner et à cette structure qu'est la matière symbolisée par le diable. Lorsque l'on contemple le diable sans la superstition, on s'aperçoit de quoi ? Eh bien, on s'aperçoit que le diable n'est pas si diabolique que cela. On s'aperçoit que le diable est en fait Dieu. Mais Dieu, dans une manière contractée, compactée, et je dirais le maître mot, et ceux qui font de l'astrologie me comprendront très bien, cristallisé. C'est pourquoi dans l'astrologie, la planète qui symbolise et qui crée la cristallisation elle-même est aussi appelée la planète du diable. Et c'est Saturne. Saturne est vécu comme le diable dans le ciel. Et dès que Saturne fait quelque chose contre une autre planète, alors on dit, voilà le diable qui agite sa queue et qui empêche que le bien soit dans le thème astrologique de telle ou telle personne. Mais en fait, Saturne, comme le diable, ou comme la matière, puisque c'est une seule et même chose, car la matière n'a pu exister sur la Terre que par l'effet, l'action de la planète Saturne, donc par la cristallisation que permettait Saturne. Quand donc l'on regarde Saturne, ou le diable, ou la matière, on s'aperçoit que toutes ces choses ne sont qu'un autre aspect de Dieu, mais un Dieu cristallisé. Pourquoi est-ce que donc, puisqu'il s'agit d'un Dieu cristallisé, pourquoi est-ce que l'on a fait à l'image de ce Dieu cristallisé des sabots, un demi-corps de bouc et des cornes sur la tête? Lorsque l'on contemple la tête de bouc que l'on livre généralement au symbole de la matière, donc au symbole du diable, l'on s'aperçoit en fait que ce symbole en lui-même n'émet rien de diabolique. Mais il faut savoir que l'aspect diabolique y a été ajouté simplement parce que ceux qui, au fur et à mesure de l'histoire de la Terre, qui vibraient justement si fortement dans l'astral, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui sont les plus forts magiciens lorsqu'ils se réveillent quelque peu et que leur volonté s'exerce, ces gens-là ont bien vu qu'ils ne pouvaient obtenir de pouvoir qu'en passant par la cristallisation du feu divin. Donc en allant chercher le feu à la base même dans la matière. Ils ont avant tous les chercheurs du monde, ils ont avant eux découvert ce qu'est la fission ou la fusion de l'atome, de l'énergie atomique. Il y a donc deux façons de libérer l'énergie atomique, soit comme les scientifiques, simplement pour chercher ce qu'il y a au cœur de l'atome et connaître l'univers, soit par la pensée, en étant un magicien et en utilisant cette même énergie pour faire du bien ou pour faire du mal. Et l'énergie qui est détachée, qui explose à ce moment-là, est exactement la même. Que vous preniez l'énergie qui est libérée dans un cœur, un générateur dans une centrale atomique, ou que vous preniez l'énergie qui est libérée par un magicien noir qui est en train d'opérer, de jeter un sort, vous entendrez et vous verrez la même déflagration. Simplement, le changement, l'énergie, la lumière, une a lieu sur un plan physique et l'autre sur un plan astral. Donc vous verrez la même lumière, mais pas du tout sur le même plan. Ce qui a fait donc que le bouc est devenu un être satanique, l'image même du mal, ce n'est pas parce que le bouc est l'image du mal, mais c'est parce que par le bouc, la force de la matière, ceux qui ont compris ce qu'était la matière ont ensuite fait beaucoup de mal. Par cette matière, on peut faire beaucoup de mal, parce que la matière, ce n'est pas l'endroit dur, solide, l'endroit où l'on pose son pied, où l'on se tape la tête et où l'on se dit « Mais zut, il y en a assez de ce monde qui est si solide. Moi, je veux de l'éthéré. Moi, je veux du divin. Je veux voler avec les anges. » Le monde n'est pas si solide que cela. Le monde est très énergétique. Et c'est parce que son énergie est si condensée que le monde apparaît si solide. Autrement dit, pourquoi est-ce que Dieu s'incarne? Car c'est de cela qu'il s'agit. Quand je vous dis que vous êtes Dieu, l'archétype, quand je vous dis que Dieu vous envoie en incarnation, si vous faites un et un, vous allez me dire que cela fait deux. Si vous êtes Dieu et que vous allez en incarnation, c'est que c'est bien Dieu qui s'incarne. Pourquoi est-ce que Dieu s'incarne? Dieu est toute conscience. Si l'on essaye à peu près de cerner avec les mots et les concepts intellectuels ce que peut être Dieu au moment de son premier pas dans le manifester, au moment où il est donc Keter, sur l'arbre de la Kabbale, ce Dieu-là n'est que pure et entière conscience. Mais cette conscience-là ne serait rien
s'il n'y avait pas un feu qui venait de temps en temps la réanimer. Comme ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Réfléchissez à cette logique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Réfléchissez à la nécessité de votre propre incarnation. Vous êtes une conscience que l'on dit endormie et l'on vous plonge dans la matière. Et à cause des expériences que permet la matière, vous vous libérez un jour et vous retrouvez votre statut divin. Si vous restez avec un esprit isolationniste, sans logique, sans déduction, vous dites ça c'est l'histoire humaine. L'histoire divine, je n'arrive pas du tout à la soupçonner. Mais si tu peux la soupçonner, tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Si tu es l'étincelle de Dieu, si tu es l'archétype, et que l'archétype t'envoie en incarnation, c'est que lui aussi a besoin de s'incarner. Pourquoi est-ce que toi, à partir du moment où tu aurais un statut humain, pourquoi est-ce que toi, sans aucune raison cosmique, pourquoi est-ce que toi seul, tu aurais le devoir de t'incarner? N'oublie pas tout ce qui est en bas et comme ce qui est en haut. Et toutes les lois occultes cosmiques s'effectuent dans des lois physiques naturelles. Donc s'il existe l'incarnation pour l'homme, c'est qu'elle existe aussi pour Dieu. Et si pour l'homme il est nécessaire de s'incarner, c'est qu'il est nécessaire aussi de s'incarner pour Dieu. Et puisque l'homme est Dieu, ne disons plus si l'homme doit s'incarner par imitation des lois cosmiques, alors Dieu s'incarne aussi, puisque l'un et l'autre sont une seule et même essence. Appelons les choses par leur nom. Et disons, Dieu s'incarne. Pourquoi? Est-ce que Dieu aurait envie de sortir de temps en temps de son sommeil en tapant sur l'oreiller, en mettant le pied hors du lit, en se disant, bon, me voilà le cosmos, on va s'amuser pendant quelques âges? Bien sûr que non. Dieu ne se réveille pas en bâillant, en soupirant, et en prévoyant tout ce qu'il va faire dans les mondes comme s'il s'agissait de précréer une grande récréation. Parce que sinon, vous pourriez dire que Dieu a mauvais goût dans ces jeux. Car le sida, le cancer, la faim, la guerre, c'est un mauvais jeu, non? Donc, Dieu ne se réveille pas simplement pour s'amuser à vivre dans le cosmos et à travers les divers règnes et les diverses races. Il y a simplement un temps en lui, un temps d'existence. Ce temps d'existence n'est pas séparé en temps de vie et en temps de mort, comme il s'agit dans le cas de la vie et de la mort humaine. Il y a un temps de manifestation et un tas de non-manifestation que l'on pourrait appeler un état d'existence, un moment où donc Dieu manifesté existe, et un moment où Dieu non manifesté se retire de l'existence pour ne vivre qu'une existence toute introvertie et intérieure. Cet état d'existence complètement introvertie, on l'appelle aussi le pralaya, le sommeil de Dieu, le néant. Mais en fait, ce n'est pas un moment ni une zone où Dieu n'est plus, où le principe suprême de la vie n'est plus. C'est une vie qui n'est plus manifestée. Il y a donc un moment où l'archétype, la vie des vies, est à l'intérieur d'elle-même. Et quand l'homme vit sur la terre, en ce sens, il imite Dieu, le grand archétype, la vie des vies,
au moment où justement il va dans les draps de la nuit et qu'il s'endort, ou au moment où il meurt. Et il y a un moment où la vie des vies sort à l'extérieur, se dilate en une multitude de mondes. Pourquoi ce rythme? Il y a ce rythme parce que tout simplement, il n'y a qu'à l'antipode de lui-même que Dieu peut trouver sa perpétuité. Soit pour perpétuer ce qui est sa vie véritable, sa vie absolue, et qui est ce néant. Ce néant où rien ne cesse d'exister vraiment. C'est une vie complètement introvertie. Et le meilleur concept intellectuel qui permet de traduire cette vie introvertie, c'est le néant. Pour donc perpétuer ce néant qui est la vraie vie de la vie des vies, ou de l'archétype, ou de Dieu, nommez la chose comme vous voulez, pour perpétuer cette vraie vie, Dieu n'a pas d'autre ressource que d'aller à l'extérieur de lui-même, dans l'opposé de lui-même, qu'est la matière. Et pourquoi? Parce que c'est dans cette matière qu'il va trouver le moyen de régénérer ses particules de conscience. En fait, l'homme cherche le bain de jouvence, le filtre de jeunesse éternelle en haut, dans le haut des cieux. Et il ignore complètement que c'est ici, en bas, et maintenant, qu'a lieu le bain de jouvence, la régénération. Il se croit perdu, il se croit mortel, et il ignore complètement que c'est en ce moment, grâce à une multitude d'incarnations, qu'il est en train de perpétuer sa vie divine, qu'il est en train de conquérir son éternité. Et si les hommes comprenaient cela, ils arrêteraient de vivre pour rien du tout. Ils arrêteraient de se livrer à n'importe quoi, gaspillant leur vie. Ils arrêteraient aussi de se suicider ou d'entamer la santé en se droguant, en devenant des alcooliques, en tombant dans la prostitution ou toutes sortes de choses qui gâchent complètement les vibrations d'un être. C'est ici le bain de jouvence. Ce n'est pas ailleurs. Simplement, celui qui se régénère n'est pas connu de l'homme traditionnel. L'homme traditionnel ne connaît que son moi-je. Il se dit, eh bien, ce moi-je, celui que je suis moi, il va mourir. Celui-là, je ne veux pas qu'il meure, alors je veux avoir l'éternelle jeunesse. Mais en fait, s'il faisait un tout petit effort pour petit à petit sentir l'âme, vibrer avec son âme, il verrait que la vraie vie qui est en lui, c'est la vie de l'âme, et que cette vie qui est son âme est en train de se régénérer dans la matière, en passant à travers tous les règnes, en mangeant des carottes, en buvant de l'eau, en respirant de l'air, en faisant l'amour aussi. Et que c'est ici que la vie a lieu. La vie qu'il imagine avoir lieu au ciel, bien entendu. Cette vie perpétuelle, pleine d'éclat et de mouvement. C'est ici qu'elle a lieu. Bien sûr, au ciel, il y a aussi la vie, et une vie encore plus grande. Mais c'est une vie qui ne convient pas trop à l'homme, ni même à certains disciples, parce que c'est une vie que l'on dit de non-mouvement, de plénitude, où tout s'arrête. Alors pour celui qui a des jambes jeunes et qui veut encore courir un peu partout, voir tout, le néant de la vie absolue ne l'intéresse pas. Donc, qu'ai-je voulu démontrer par ce discours? J'ai voulu démontrer que
Vous devez cesser de tanguer dans la barque. Non pas seulement parce que Jésus et d'autres initiés comme Jésus vous démontrent que l'homme est grand parce qu'il peut devenir Dieu et marcher sur l'eau. Si vous croyez cela, c'est beau, c'est une bonne chose, c'est un bon début, mais c'est la monnaie du pauvre. Est-ce que vous avez envie encore longtemps de vivre avec la monnaie du pauvre? La foi religieuse, car c'est de cela qu'il s'agit, la foi religieuse, c'est la monnaie du pauvre. Parce que celui qui a la foi religieuse sait très bien qu'il va mourir. Sait très bien qu'il est inférieur à Dieu et il prie Dieu de lui pardonner d'être inférieur et plein de péchés. Et il le supplie d'au moins lui réserver une petite place au paradis pour dormir tranquille. Dans ton infinie bonté, Seigneur. Ceci est le pain du pauvre, l'argent du pauvre, le pantalon du pauvre, le désespoir du pauvre. Je n'ai rien contre le fait que vous viviez en pauvre, si cela vous plaît. Je n'ai rien contre. Cependant, je trouve absolument immoral du point de vue spirituel, absolument inacceptable à cause de ce que nous connaissons de la nature des choses. Je trouve donc complètement inacceptable que nous laissions Dieu lui-même vivre en pauvre et se croire pauvre. Car c'est de cela qu'il s'agit. Si je vous laisse vivre avec cet argent du pauvre, j'accepte que Dieu, qui est l'objet de ma flamme, l'objet de mes efforts, l'objet de mon amour, j'accepte que ce Dieu soit pauvre en vous, qu'il vive comme un mendiant en vous et se contente de quelques fois religieuses, de quelques superstitions pour trouver son royaume, pour trouver sa libération. J'ai un tel respect pour ce Dieu immense que je ne peux lui permettre ni de rester dans la pauvreté, ni de rester dans la condition humaine. Et que vous soyez d'accord ou pas, je le libérerai. Et tous ceux qui connaissent ce que je connais feront de même. Que vous le vouliez ou pas, que vous disiez avec votre moi-je, votre moi de psychologie, de peur, de recul et d'avancée, que vous disiez avec tous ces composants « non », nous avancerons toujours d'un pas, de façon incontournable, indétournable. Et plus nous approcherons comme une armée qui d'un seul coup submerge tout l'horizon, ce qui est en vous de petit, ce qui est en vous de petitement humain, comme un voleur malsain, cette petitesse prendra la porte et partira. Et automatiquement, vous verrez en vous-même ce qui a toujours été, la divinité. Et vous nous regarderez tomber sur vos fesses à la renverse, tellement vous serez étonnés. Vous nous regarderez, vous me direz, mais ce n'est pas possible. Pendant tellement longtemps, pendant tellement de siècles, j'ai cru le voleur qui habitait en moi. Et en plus, je le laissais me squatter, comme vous dites. Je le laissais m'habiter et je croyais à sa loi et il me faisait faire n'importe quoi. Il m'avait tellement maîtrisé, tellement dominé, je croyais tout ce qu'il me disait. Il me disait « lève-toi à 8 heures pour aller travailler », je le croyais. Il me disait « bois ton café tous les matins, sinon tu vas tomber de sommeil », je le croyais. Il me disait « fais l'amour tous les jours parce que c'est ça l'important dans la vie », je le croyais. Et j'ai fait toutes ces choses parce que je l'ai cru. Mais toi, le frère qui savait, tu as continué à marcher, tu as avancé vers nous et tu as écrasé les ombres parce que ce voleur n'est qu'une ombre. Et d'un seul coup, j'ai vu qu'il n'existait même pas. Et que ce que je croyais était complètement stupide.
sans aucune puissance, et que cette chose n'avait de puissance que parce que j'étais faible, faible de l'ignorance de ma nature véritable. Aujourd'hui, tout me paraît clair. Il me semble que j'ai toujours été un Dieu, que j'ai toujours été Dieu, et je n'arrive pas encore comment à comprendre comment j'ai pu devenir un homme. Je n'arrive pas du tout à comprendre cela. Qu'est-ce qui a pu se passer dans la conscience pour qu'étant un Dieu magnifique et immense, j'ai pu croire être un homme vil, un drogué qui avait besoin de sa seringue tous les jours, un alcoolique qui avait besoin de sa bouteille tous les jours, ou un excité sexuel qui avait besoin de relations sexuelles tous les jours, ou un orgueilleux qui avait besoin de ses fantasmes tous les jours, ou d'un guerrier qui avait besoin du champ de bataille tous les jours. Mais comment est-ce que j'ai pu croire cela? Et à ce moment-là, le maître bienveillant qui assiste ce genre de disciple lui met la main sur l'épaule et lui dit: tu sais, quand tu es un homme, tu crois que le plus grand mystère est de découvrir Dieu. Mais quand tu es un Dieu, tu découvres que le plus grand mystère est de découvrir l'homme. Le mystère est cependant le même. Et lorsque le discours est terminé, que le silence s'est imposé, que la passion s'est calmée dans le cœur du disciple, alors il monte encore 3 marches. Et paisiblement, il se couche sur la croix. Il n'a plus rien à comprendre, car il n'y a rien à comprendre. Il n'y a pas de mystère. Il n'y a qu'à contempler la roue d'une vie que l'on appelle Dieu, et qui, pour perpétuer son état et sa pulsation, descend dans l'endroit même de l'énergie, dans la caverne. Dans cette caverne, il a aménagé des particules de sa conscience de façon telle qu'elles sont compactes, serrées, et que par leur voisinage, elles déclenchent l'énergie et la formation de la matière. Pour que vous compreniez cela, je vous donne encore un exemple. Dans le règne de la nature, il y a un élément que l'on dit pouvoir concentrer le plus d'énergie par rapport à tout autre élément. C'est le quartz, les cristaux, les pierres. Lorsque vous observez la vie des quartz, des cristaux, vous vous apercevez que ces pierres n'ont pu être conçues que parce qu'elles sont enfoncées dans la terre. Et les cavernes sont les endroits où l'on peut le plus facilement voir à fleur de la croûte terrestre des cristaux magnifiques et géants. Mais cependant, ils sont dans la caverne. Alors pourquoi, étant donné que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et que comme ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, pourquoi est-ce que la nature choisirait la caverne et le centre, le ventre de la terre, pour fabriquer l'élément, le cristal, qui est capable de contenir et d'émettre le plus d'énergie? Si tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, c'est bien parce que l'énergie se trouve à l'endroit le plus compact. Et il n'y a rien de plus compact qu'un cristal. C'est de la matière à l'état le plus compact possible. Mais c'est en même temps une matière qui, tout en étant à l'état le plus compact, malgré son état compact, est à l'état aussi le plus pur. C'est ce qui fait la beauté et la force du cristal. Et c'est ce qui est demandé à l'homme. Tu es dans l'état le plus compact de la vie, tu es dans la chair. Mais ce n'est pas pour que tu prouves tes mérites à un dieu que l'on pourrait alors appeler Néron et qui ferait de la terre une immense arène avec des jeux de cirque, avec le lion Satan d'un côté, avec les tigres des passions de l'autre, et que tout ceci soit lâché sur toi dans l'arène. Je te le répète, si un tel Dieu existait, je serais le premier à le tuer de ma propre main. Heureusement, Dieu n'est pas comme cela, et la vie n'a pas été créée pour cela. Il n'y a pas une terre infernale où le disciple essaye de montrer qu'il mérite d'être un dieu ou de devenir dieu ou d'avoir le repos éternel. C'est un jeu imbécile. Et il n'y a que les imbéciles pour croire à un jeu imbécile. Si tu es dans l'endroit le plus compact de la vie, c'est parce que comme le cristal, c'est à cet endroit-là que tu vas pouvoir aussi le plus emmagasiner de l'énergie, et que grâce à cette énergie que tu collectes comme le cristal, tu vas pouvoir devenir par la même la plus pure des consciences. Car je vous le dis, si Dieu ne se régénérait pas, il deviendrait un Dieu lamentable, un vieillard qui perdrait la poussière de ses os dans l'espace. Et l'on ne dirait plus, tiens, voilà une comète qui passe. On dirait, tiens, voilà les débris de Dieu qui vont nous tomber sur la tête. Et il y aurait une pluie de cendres sur tous les mondes. Et cette cendre étoufferait tous les mondes et il n'y aurait plus rien. Or, la vie de Dieu et Dieu lui-même sont telles que la vie de Dieu est un éternel éclat de joie. Qui dit vouloir rire sans cesse, dit en même temps pouvoir rire sans cesse. Et pour pouvoir rire, eh bien, il faut être jeune. Tout le monde le sait. Les vieillards ne rient plus, mais les enfants rient énormément. Alors, pour pouvoir rire dans l'espace, pour toutes les éternités des éternités, Dieu doit sans cesse redevenir un jeune homme. Et pour redevenir un jeune homme, il retourne à la matière, qui est sa femme et sa mère en même temps. C'est pourquoi il faut aimer la matière, aimer la terre. Car comme le dit l'Église, même si elle ne sait pas vraiment ce qu'elle dit, son intuition est en tout cas bonne. La terre, soit Marie, soit la Vierge, la matière en quelque sorte, soit comme on le dit encore, la matière cosmique. Cette matière, cette terre est véritablement la mère de Dieu. Quand donc dans l'Église catholique on dit « Vierge Marie, Mère de Dieu », même si l'Église ne l'utilise qu'à des fins purement religieuses, l'Église n'est pas si loin de la vérité que cela. Elle n'a pas encore tout perdu, voyez-vous, malgré tout. Marie, Mère de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire ce que je viens de vous expliquer. Cela veut dire que Dieu crée la matière. Cette matière étant donc différente de lui parce qu'elle est matière, elle va émettre une vibration différente que l'on appelle vibration négative, ou plus exactement, pour éviter tout concept malsain, parce que dès que l'on dit un mot qui est plus ou moins à résonance péjorative, les humains s'empressent de construire des concepts malsains. Mais pourtant, il faut appeler les choses par leur nom. La matière et l'énergie négative, quand je dis négative, ce n'est pas contraire à Dieu, c'est-à-dire énergie réceptive. Étant énergie réceptive, l'énergie est appelée aussi féminine. Et si elle est féminine, elle est aussi matrice. Si elle est matrice, elle est matière. Si elle est matière, elle est mère. Et si elle est mère, toute mère enfante. et la mère enfante Dieu. Quel Dieu ! Le Dieu qui est en même temps son Créateur, son Père et son Fils. Alors pour rire un petit peu au milieu d'un discours qui devient long, nous dirons quel fameux inceste l'histoire cosmique. Il existe encore en tant que Créateur. Il occupe donc toujours le poste de Créateur en même temps qu'il est la mère. Mais puisqu'il a créé la mère et qu'il l'a créée dans un but, et que lui est le seul matériau pour créer toute vie dans l'univers, il faut qu'il soit en même temps la chose qu'il attend que la matière crée. Donc, il est créateur, il est la matière, et il va être aussi le fils qui ainsi sort du premier couple cosmique. Tout simplement parce que Dieu est le seul matériau dans tout l'univers pour créer tout ce qui existe. On ne peut pas prendre autre chose. Même si, pour ceux qui ont approfondi la connaissance occulte et qui savent qu'il y a des hiérarchies créatrices fort diverses, que l'on appelle des hiérarchies angéliques, ou que l'on appelle aussi les...
Est-ce que vous devez quitter la salle avec tout ce que je viens de vous dire ?
Certainement pas.
D'abord parce que